ce soir. Alors, nous remercions. Ah, ça marche pas. Je coupe. Se confier à la Vierge Marie pour ce temps.
Je vous salue, Marie. La vie est dans la grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre-Dame de la Roche,
priez pour nous.
Donc la parole au Père Florian Massy.
Voilà, un grand merci Père Dominique pour cet accueil, pour cette opportunité de vous parler. Voilà, une petite heure, je vais essayer de faire une petite heure avec ces thèmes. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'Eucharistie? Enfin, qu'est-ce que l'adoration? Pourquoi adorer? Comment adorer? Et on essaiera de voir un petit peu la dimension missionnaire. Comment l'Eucharistie, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on célèbre, lorsqu'on l'adore, fait de moi un missionnaire. Voilà, donc j'essaierai de donner des petits témoignages, des petits exemples, des petites histoires. Et après, si vous avez des questions, on pourra prendre un temps de questions-réponses. Alors, tout d'abord, j'aime bien commencer par un témoignage qui s'est passé à Madrid. Est-ce que parmi ici, certains d'entre vous étaient présents pour les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid? Quelques-uns qui étaient là-bas, quelques jeunes là, voilà. Alors, j'aime bien commencer par ça parce qu'il s'est passé, à mon avis, un événement qui est très important. Et comme le pape François le dit, il faut savoir lire les signes du temps. Alors, les Journées mondiales de la jeunesse, donc, moi je suis prêtre donc, dans le diocèse du Var, Toulon. Là, je suis curé d'une paroisse Sainte-Marie-Madeleine, à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. C'est là où les reliques, vraies, histoire, mais pas ça, je ne parlerai pas de ça, les reliques de Marie-Madeleine. Et donc, bref, j'étais à l'époque dans la pastorale des jeunes, je m'occupais d'accompagner avec un bon groupe de prêtres du Var. On accompagnait, on avait 1200 jeunes qui étaient là-bas. Et alors, vous savez, dans les Journées mondiales de la jeunesse, il y a d'abord une semaine en diocèse, alors on va visiter des différents diocèses, un temps de fête, un temps de rencontre avec les Espagnols, qui nous avaient vraiment bien accueillis, c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, la deuxième semaine, on se retrouve tous à Madrid, voilà, tous ensemble, avec le pape qui arrive, alors à l'époque c'est Benoît XVI, et vous savez, les Journées mondiales de la jeunesse terminent toujours par une grande soirée de prière avec le pape, et bien sûr la messe. Alors pour cette messe, pour la grande soirée, moi je m'occupais de la logistique. Donc j'avais regardé la météo, ils avaient annoncé du beau temps. J'avais regardé deux météos, je me suis dit, on n'est jamais sûr d'une météo, on va regarder les deux. Les deux avaient annoncé du beau temps pour toute la soirée. J'avais dit aux jeunes, ne vous inquiétez pas, il va faire aussi chaud que toutes les nuits qu'il avait fait. Il était vraiment très chaud, donc prenez le minimum. Voilà, hein, surtout. Et donc on passe toute la journée dans ce grand aérodrome, à côté de Madrid, et c'est une attente longue, c'est pénible, c'est fatigant, mais en même temps, on était dans la joie, on attendait le Saint-Père, et au moment où le pape arrive, vous imaginez l'euphorie, les jeunes, c'est tous contents, c'est super, et au moment où il commence son signe de croix, on entend un grand coup de tonnerre par derrière, on se retourne, et qu'est-ce qu'on voit? Le ciel noir, avec immédiatement le vent qui arrive, et une sorte de pluie qui arrive de derrière, mais qui arrive sous la forme d'une sorte de bourrasque, de tempête, et nous voilà, à peine la veillée commencée, dans une tempête. Une tempête. Mais vraiment une tempête qui nous a un peu bouleversés, tant c'était violent. Il y avait l'eau qui arrivait en horizontale, hein, et en même temps il y avait le vent, il y avait la foudre, il n'y avait plus d'électricité, et on était un peu pris dans un temps de panique, hein, comme les disciples, souvenez-vous, lorsqu'ils étaient sur le bateau, dans le lac de Galilée, à un moment, il y a une tempête qui est arrivée, qui a secoué la barque, ils étaient sur le point de chavirer, et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Alors, je ne sais pas si vous, les Vendéens, vous avez eu peur ou non, mais nous, en tout cas, les Varois, on n'a pas l'habitude de la pluie comme ça, et on a eu très peur. Alors, on a passé 15 minutes, 20 minutes sous la pluie, on ne pouvait rien faire, tout s'est arrêté. Et puis, à un moment, ça s'est un petit peu calmé. Et alors, il y a le grand ostensoir de Tolède. C'est un ostensoir absolument magnifique, qui fait 3 mètres de haut, qui est monté par l'estrade principale. Et le pape a pris la lunule, hein, qui était dans le tabernacle, voilà, et il a déposé la lunule dans ce grand ostensoir. Et à ce moment-là, tous les jeunes, alors là je ne peux parler que pour les jeunes qui étaient dans mon carré, hein, je veux dire, mais je pense que c'est la même chose pour les autres, se sont tous mis à genoux, et ils ont commencé à vivre un temps d'adoration, mais alors absolument bouleversant, un temps d'adoration absolument incroyable, où je pouvais voir qu'après cette démarche un peu pénitentielle, et je pense qu'on en avait besoin de passer un peu par cette tempête, de temps en temps ça fait du bien d'être un peu secoué par les éléments, et bien de pouvoir se mettre en adoration. Et on est passé, il y avait un contraste entre la violence de la tempête et le calme qui a suivi, qui faisait penser toujours à ce passage biblique où les disciples dans la barque, à Jésus qui se réveille, qui dit silence à la tempête. Et la tempête s'arrête, la mer devient calme, hein, le lac de Galilée. Et si on relit les textes bibliques, il est dit, ils se prosternèrent, ils adoraient. Ils ont dû se mettre à genoux devant le Seigneur, dans la barque, exactement comme nous tous, dans l'église. Eh bien, on était tous à genoux devant le Seigneur et avec le pape Pierre. Et alors, on a vécu 20 minutes, je crois, d'adoration qui était vraiment un temps, mais extrêmement intense. Ensuite, le pape a fait une bénédiction du Saint-Sacrement. Et au moment où il a béni le Saint-Sacrement, c'est reparti de plus belle, et la veillée était vraiment tombée à l'eau. Hein. Sauf, eh bien, ce temps d'adoration qu'on a pu avoir. Alors après, ils avaient essayé de faire péter quelques feux d'artifice, ils avaient tout de même organisé, mais les feux d'artifice n'arrivaient pas à s'envoler, mais j'ai envie de dire, la fête avait été ailleurs. Et la fête avait été là. Et je me souviens, quand je suis rentré dans le bus, on rentrait avec le groupe et on a demandé aux jeunes, on leur a dit qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces journées mondiales de la jeunesse. Et une bonne partie d'entre eux, eh bien, on dit que c'était ce temps d'adoration. Ce temps d'adoration qui était pour eux, avec tous ces temps festifs, ces temps de partage, ces temps de joie qu'ils avaient pu avoir, eh bien vraiment le temps qui résumait un petit peu, j'ai envie de dire, le grand message que Jean-Paul II, que Benoît XVI et que le pape François est en train de nous dire, que la foi chrétienne, hein, c'est pas d'abord une question de doctrine, de dogme, de morale, de choses à faire, à croire, à pas faire, à pas croire, mais c'est avant tout une rencontre avec Jésus vivant. Et ce Jésus vivant qui est venu il y a 2000 ans, eh bien l'Église nous dit qu'il est là, présent ici au tabernacle. Jésus vivant, vraiment ressuscité. Et donc, toute la vie chrétienne, hein, qui est d'abord l'amitié avec Jésus-Christ, c'est ça, l'amitié avec Jésus-Christ, c'est résumé dans ces journées mondiales de la jeunesse. Le Seigneur nous a donné qu'un temps d'adoration, j'ai envie de dire, mais pour nous montrer que c'était là qu'on vivait ce vrai temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et je crois que ça fait partie des signes prophétiques que le Seigneur nous donne, parce que vous savez, il est maître de toutes choses. Et voilà, il y avait 1,5 million, 2 millions de jeunes qui étaient là et qui ont pu faire une expérience bouleversante avec Jésus vivant, ressuscité, qui a pu calmer la tempête et qui a pu leur montrer à tous ces jeunes qui sont l'Église de demain, les prêtres de demain, les religieux, religieuses de demain, eh bien que cette vie chrétienne consistait à rencontrer notre Seigneur Jésus vivant pour se laisser toucher par son amour, se laisser relever, et pour pouvoir ensuite devenir des témoins, des missionnaires, etc. Voilà, et pour pouvoir nous engager dans le monde. Alors ça, c'était le premier petit témoignage que je voulais donner pour expliquer maintenant, voilà, qu'est-ce que l'adoration, hein, qu'est-ce que l'adoration. Alors vous voyez, on peut prendre l'adoration dans le sens général, universel. Si on regarde un dictionnaire, plusieurs définitions pour ce mot-là, mais celle que j'aime bien, c'est la soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Ça, c'est le sens un peu universel, vous voyez. Il y a une soumission. Soumission, ça veut dire, en fait, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas plus grand que Dieu, je ne suis pas égal à Dieu, hein, mais je suis fils de Dieu, je dépends de Dieu, je suis créé par Dieu. Et Dieu me maintient en existence. C'est-à-dire que si j'existe, c'est parce que Dieu le permet, Dieu le veut. Et si Dieu ne le veut plus, je disparais immédiatement. Je bascule dans le néant. Si Dieu oublie cet autel à un millième de seconde, cet autel disparaît. Et si nous existons, c'est parce que nous sommes maintenus en existence par son amour qui est sans cesse. Et donc c'est un devoir dans l'Église, l'enseignement de l'Église, le catéchisme, c'est un devoir de justice d'adorer celui grâce à qui on existe. C'est le premier devoir de l'homme, c'est l'adoration. D'ailleurs, c'est le premier commandement dans la Bible, c'est le plus important. Tu adoreras le Seigneur. Et quand Jésus est tenté par le démon pour devenir riche, puissant, grand et connu, etc., il renvoie au premier commandement. Dieu seul, tu adoreras. Voilà. Ça, c'est le premier commandement parce que ça met l'homme dans une juste attitude par rapport à Dieu. Et quand on se met dans une juste attitude par rapport à Dieu, eh bien, Dieu nous met dans une juste attitude par rapport à l'homme. Et quand on se découvre comme fils de Dieu, qu'on a le même Père, et donc on découvre qu'on est tous frères et qu'on doit vivre ensemble et qu'on doit s'entraider. Mais il faut d'abord se mettre dans cette juste attitude par rapport à Dieu. Il faut commencer par l'adoration pour pouvoir vivre ce qu'on appelle la justice sociale. Vous voyez, la justice entre les hommes, elle doit être précédée par la justice divine qui consiste à adorer notre Dieu. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est l'adoration dans son sens universel. Ensuite, il y a l'adoration chrétienne. Alors, c'est quoi? Alors, ça, c'est... Jésus, il nous a dit que si vous voulez adorer Dieu le Père, il faut passer par lui, par Jésus. « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, si vous voulez adorer le Père, il y a un chemin, selon Jésus, un seul, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est une personne. Et on passe par Jésus et on rejoint le Père. Et on reçoit l'Esprit Saint. Vous voyez, ça monte, ça descend, c'est la Trinité, ça circule. Chaque fois que vous allez adorer le Père par Jésus, vous recevez l'effusion de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est l'adoration chrétienne. Alors après, l'adoration eucharistique. Alors, on pourrait reprendre le livre des Hébreux pour creuser un petit peu tout ça, mais enfin, je vais juste résumer. En fait, l'Église nous enseigne que Jésus... Alors, toute la vie de Jésus, c'était une grande vie d'adoration. Il a sans cesse adoré Dieu, tout fait pour la gloire de Dieu, pour le salut des hommes, et toute sa vie était une vie d'adoration de Dieu, jusqu'au don de lui-même sur la croix, quand il est mort crucifié. Et cette grande adoration de Jésus pour son Père, Jésus la laisse ici au tabernacle. C'est-à-dire qu'ici, pour son Église, pour que nous puissions, voyez, entrer dans l'adoration de Jésus qui nous conduit droit vers Dieu. Et quand je viens adorer l'Eucharistie, qu'est-ce que je fais? J'entre dans une adoration tellement plus grande que la mienne. J'entre dans l'adoration de Jésus, qui est comme une fusée spirituelle, on pourrait dire, qui me conduit droit vers le cœur du Père. Et je suis sûr d'arriver vers le cœur du Père, parce que c'est l'adoration de Jésus, et l'adoration de Jésus, elle va au cœur du Père. Alors, on peut donner un exemple tout simple. Bon, moi, pour venir ici hier, j'ai pris l'avion de Marseille à Nantes. Alors, quand vous prenez l'avion, il faut aller à l'aéroport. Il faut être à l'heure, il ne faut pas rater son avion, il y a de grève, bref. Mais ensuite, quand on a tout ça de bon, on monte dans l'avion, et qu'est-ce qu'on fait? On s'assied, et vous attendez. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, il ne faut pas pédaler, il ne faut pas... Bon, il y a le pilote qui s'occupe quand même de guider l'avion, mais vous entrez, vous posez, et puis une heure après, de Marseille, hop, vous retrouvez à Nantes. Ou de Nantes, vous retrouvez à Marseille. En d'autres mots, vous êtes d'un côté, en vertu de la puissance de l'avion, eh bien vous retrouvez à l'autre bout, là où vous voulez, sans avoir fait beaucoup d'efforts. La seule différence, mais il faut quand même payer son billet d'avion. Voilà. Alors avec l'adoration, c'est presque pareil, à part qu'on n'a même pas payé parce que c'est Jésus qui a payé en donnant sa vie sur la croix. Et vous voyez, il a donné sa vie sur la croix pour qu'on ait le don de l'Eucharistie. Et quand vous venez devant le Saint-Sacrement, vous entrez dans cette adoration qui est comme un TGV ou une fusée spirituelle, un avion, enfin je ne sais pas qui vous conduit droit vers le cœur de Dieu. Et l'Église nous dit, vous voyez, par Jésus qui est présent, Jésus qui est vivant, Jésus qui agit ici au tabernacle. Que fait Jésus au Saint-Sacrement? C'était la grande question d'un saint, de Saint-Pierre Julien Aymard. Jésus adore son Père. Là, il adore sans cesse, il continue, il rend présent son adoration du Père pour nous, Église, pour qu'on puisse aujourd'hui entrer dans cette prière qui nous conduit vers le Père et recevoir l'Esprit Saint. Et chaque fois que vous venez passer du temps devant Jésus exposé au Saint-Sacrement, eh bien, Jésus déverse son Esprit Saint sur vous. Et ça, on le voit dans Jean 7, 37. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive, de mon sein coulerait un fleuve d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui viennent en sa présence. Quand vous allez en présence de Jésus, qui est présent avec son cœur, eh bien, il déverse son Esprit Saint en vous. Donc, vous voyez, l'adoration eucharistique, c'est tout simple. C'est une prière où on est très pauvre. Il faut faire un acte de foi, sinon, si on ne fait pas l'acte de foi, on n'y vient pas. Mais ensuite, en vertu de la puissance de l'adoration du Christ, eh bien, c'est Jésus qui me prend tel que je suis, qui me conduit vers Dieu le Père, et surtout qui me donne son Esprit Saint. C'est ça qui compte pour nous. C'est non seulement de revenir vers le Père, mais de recevoir cet amour de Dieu pour pouvoir ensuite eh bien, aller vers ce que le Seigneur me donne. Donc, vous voyez donc l'adoration, l'adoration eucharistique, c'est tout simplement voilà, cette prière très simple où on vient voilà, rentrer dans l'adoration de Jésus. Alors, ensuite, j'aimerais donner un petit témoignage qui m'est arrivé. J'ai fait des études à Paris, des travaux publics, et après je suis parti aux États-Unis pour faire un Master of Science, c'était dans les vagues, la mécanique des vagues et tous ces trucs-là. Donc j'ai travaillé comme ingénieur là-bas. Et puis un jour, alors j'ai reçu l'appel là-bas, c'était pas prévu au programme pour moi, ça quand je suis parti aux États-Unis, mais enfin pour le Seigneur, il y avait des projets qui n'étaient pas les miens. Et c'était en allant je fais une petite parenthèse sur ça, je suis allé au Mexique, je suis prié dans ce grand sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Et à ce moment-là, j'ai reçu, voilà, la Vierge Marie s'appelle très fort. Florian, je veux que tu sois prêtre. Voilà, ça c'est la Vierge Marie qui parle. Il y avait l'autorité de la Reine du Ciel, il y avait la douceur de ma mère. Et donc j'ai été touché par cette voix, voilà, que c'est dans le cœur, c'est une intuition, ça ne s'explique pas. Enfin, on a tous, la Vierge Marie peut très bien nous parler comme elle veut. Et à ce moment-là, je savais que j'étais appelé pour devenir prêtre. J'étais entièrement libre parce que Dieu respecte infiniment notre liberté. Il nous appelle, il nous invite, mais il ne nous force jamais la main. C'est nous qui nous forçons la main de temps en temps, mais Dieu nous respecte tel que nous sommes. Et donc à ce moment-là, je savais que j'étais appelé voilà, pour devenir prêtre, avec énormément de joie, parce que Dieu met toujours beaucoup de joie quand il nous appelle. Et après, je suis revenu donc je m'étais engagé à Houston, donc je travaillais là-bas. Et puis, je me suis dit, je vais quand même, si je suis appelé à être prêtre, il faut que j'aille à la messe un peu plus souvent. Et alors, aux États-Unis, vous savez, les choses sont très bien organisées. Il y a une pause de midi à 1h, et à midi 5, vous avez une messe dans toutes les églises, à peu près, les grandes villes. Et donc, vous quittez à midi, prenez la voiture, en 5 minutes, il y a généralement une église. Donc, vous arrivez à l'heure, une messe ultra brève, juste ce qui est nécessaire à la validité, donc une messe qui dure à peu près 20 minutes. Ensuite, petite action de grâce, 5 minutes, et hop, on va prendre un Big Mac, un cheeseburger, ou un je sais pas quoi, et à 1h, on est en pleine forme, on a nourri son cœur, on a nourri son corps, enfin bref, voilà, c'est fantastique. Et alors, donc il y avait une dame qui voulait absolument avoir l'adoration perpétuelle dans sa paroisse, elle voulait avoir son curé, son père, elle ne pourrait pas avoir prédication pour inviter les gens à venir adorer le Saint-Sacrement. Son curé lui dit, écoute, on va voir, on va réfléchir, mais bon, si tu veux en parler, va en parler. Et alors, elle s'est dit, voilà, c'est comme une mission qu'elle a reçue de son curé, d'aller parler de l'amour infini de Jésus au Saint-Sacrement. Et à la fin de chaque messe, elle est tous les jours à la messe, elle allait rencontrer une personne à la sortie, en lui disant, vous savez, Jésus, dans l'Eucharistie, c'est pas une chose, c'est une personne. C'est plus qu'une personne, c'est un cœur qui nous aime infiniment et qui a soif d'être aimé en retour. Et donc, avec des mots tout simples, elle invitait les uns après les autres, les personnes, à venir se joindre dans une grande chaîne de prières et d'adoration pour entourer le Seigneur et lui rendre amour pour amour. Alors, ensuite, donc, elle est arrivée à lancer cette chaîne d'adoration. C'est vrai que moi, elle m'a interpellé comme ça. À la fin d'une messe, et c'est vrai que j'étais vraiment évangélisé par une paroissienne. Pour moi, c'est un peu grâce à elle que j'ai aussi lancé toute cette dynamique de la mission, parce que voilà, le Seigneur nous appelle tous à participer à cette mission. Et alors un jour, j'adorais le matin, donc plutôt tôt, je me souviens, il y avait un texan assez fort qui, en finissant son heure d'adoration, il disait bah, « Pour moi, cette adoration permanente, perpétuelle, vous dites ça comme vous voulez, eh bien, c'est comme être sur un grand bateau de croisière. » Alors je lui demande mais, ce qu'il veut dire par là. Et il me dit « Bah oui, il me dit, si vous êtes sur un grand bateau, il y a un moteur par-dessous qui propulse hein, le bateau de l'avant. » Peut-être une personne qui est devant le bateau, et vous avez tout le bateau hein, qui avance, son image. Et il disait « Le vrai moteur spirituel de nos paroisses, c'est Jésus ici présent dans l'Eucharistie. Il est là le moteur spirituel de la paroisse, et c'est lui qui fait avancer la paroisse dans l'amour, dans la charité, dans l'Esprit-Saint. » Alors, donc c'était une image hein, que j'ai accueillie telle quelle, mais juste après, j'ouvrais, vous savez, le texte, j'ouvrais la Bible, et je tombais sur ce passage où il y avait Moïse qui luttait contre les Amalécites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans l'Ancien Testament. Et alors c'est très intéressant, il y avait deux armées, il y avait l'armée d'Israël en bas contre l'armée des Amalécites. Et puis Moïse, il était sur la montagne, lui c'était l'intercesseur. Et alors, à un moment, il se met à lever les bras vers Dieu, donc à prier Dieu, à intercéder pour le peuple. Et quand il lève les bras vers Dieu, qu'est-ce qu'il découvre? C'est que le peuple d'Israël à l'avantage sur ses ennemis. Et puis, bon, ça devait être un peu long, et puis à un moment, il y a les bras qui commencent à baisser, hein, et puis à un moment, ils baissent les bras. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit que c'est les ennemis d'Israël qui ont l'avantage. Alors, il dit, c'est incroyable quand même, hein, et donc, il s'aperçoit en fait que le dénouement du combat dépend pas d'abord des gens sur le terrain, même s'il faut bien qu'ils soient là, parce que s'ils ne sont pas là, pas de victoire, mais d'abord des intercesseurs. Et donc il va lever ses bras vers Dieu, il demande à Aaron de maintenir un bras, son frère, il demande à Hur de maintenir l'autre bras, hein, c'est le commandant, le général de l'armée, et ensuite les bras de Moïse sont sans cesse levés vers Dieu, et Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Vous voyez ? Donc ça, c'est, on voit que l'intercession, la prière, doit toujours précéder l'action. Parce que s'il n'y a que l'action, eh bien, il manque la dimension de se tourner vers Dieu parce que Dieu donne la victoire. Voilà, ça c'est dans les psaumes, dans toute la Bible, c'est Dieu qui donne la vraie victoire. Hein, il faut lutter, il faut attaquer, il faut combattre, il faut vivre l'évangile jusqu'au bout, et la vie est un combat, et on combat tous pour rester fidèles au Seigneur, mais il faut des intercesseurs, il faut des priants, c'est eux qui obtiennent la victoire en étant unis à Jésus qui a obtenu la vraie victoire. Et la vraie victoire, c'est quand Jésus a donné sa vie sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé la haine en amour et la mort en vie. C'est ça la victoire. C'est la victoire sur la haine, la victoire sur la mort. C'est Jésus qui l'accomplit. Et c'est dans la mesure où on va s'unir à Jésus sur la croix, eh bien, que cette victoire va venir descendre dans nos cœurs. Alors, et c'est par l'Eucharistie qu'on vit cela. Hein, je le dirai juste après. Voilà. Bon, j'ai un peu de place. Voilà, entrée. Hein. Voilà. Il y a des places là, s'il y en a quelques-uns qui veulent se mettre là. Voilà. Alors, donc voyez, cette image de Moïse qui luttait contre les Amalécites, c'est important parce que je me suis dit, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on est en train de mettre en place ici, sur votre ville, sur la Roche-sur-Yon. Eh bien, c'est de pouvoir avoir des Moïse qui vont intercéder jour et nuit, sans cesse, les bras tendus vers Dieu, ou le cœur tendu vers le Seigneur. J'ai envie de dire, peut-être pas une personne à droite, une personne à gauche, mais une personne avant, une personne après, dans une chaîne ininterrompue de prières et d'intercession, où tout le cœur de la paroisse, vous voyez, est sans cesse tendu vers Dieu. Et Dieu donne la victoire totale à son Église. Sa victoire, c'est son amour, sa miséricorde, sa justice, sa paix, sa lumière. Et donc, tous ceux qui vont participer à cette grande chaîne d'adoration permanente, alors il y en a qui vont prendre le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, d'autres la nuit, mais il y aura toujours un Moïse. Voilà. Hein, si vous êtes des adorateurs, vous allez vous appeler Moïse, hein, vous allez vous appeler les Moïse hein, sur la montagne, mais qui prie. C'est-à-dire que quand on va adorer, on n'y va pas d'abord pour soi. Et sur ça, le pape Jean-Paul II était très clair dans les nombreuses catéchèses sur l'adoration eucharistique. Il a toujours rappelé l'adoration eucharistique est d'abord un service. Ce n'est pas une piété personnelle, ce n'est pas une dévotion privée. C'est une prière aux dimensions du monde. C'est-à-dire, quand je vais intercéder pendant une heure, je prends le relais de quelqu'un, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Vous avez tous vu les courses de relais sur les stades, il faut qu'ils soient tous bons. S'il en manque un qui casse le relais, ils perdent la course. Hein, et chacun va prendre son relais, chacun va apporter sa contribution. Et ici, eh bien, c'est chacun qui vient veiller les uns après les autres dans cette grande chaîne de prière pour que Jésus donne la victoire à notre Église. Et sa victoire, ensuite, ça se passe sur le terrain, on le sait, mais ça s'obtient dans la prière. Voyez. Alors, juste, je vais faire une petite parenthèse pour rappeler le lien, je voulais le faire au début, mais je suis désolé, j'ai oublié de le faire, entre la messe et l'adoration. Hein, c'est important. Alors, pour comprendre ça, il faut toujours se tourner vers le crucifix, le crucifix ici, juste au-dessus du tabernacle. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Jésus, il a pris la haine, voilà, je le disais juste avant, et son cœur l'a transformé en amour. Il n'a pas rendu la haine pour la haine, mais il a donné son cœur transpercé, source des sacrements, baptême, eucharistie, naissance de l'Église. La réponse de Dieu à la haine de l'homme, c'est l'amour, c'est l'Église, c'est les sacrements. Et ensuite, il est descendu dans la mort, il a vaincu la mort, il est revenu vivant, ressuscité, et voilà. Et alors, cette transformation de haine en amour et de mort en vie, eh bien Jésus va l'envelopper dans un repas qui se passe juste avant, c'est le jeudi saint, où il prend du pain et il dit « Ceci est mon corps ». Voilà. Ensuite, il prend du vin, il dit « Ceci est mon sang ». Alors, « Ceci est mon corps », littéralement, « sacrifié pour vous ». Ensuite, « Ceci est mon sang », versé, littéralement, versé jusqu'à la dernière goutte pour vous. Et il va comme envelopper son sacrifice rédempteur avec sa victoire sur la haine et sur la mort. Et ça, nous, on peut pas faire grand-chose contre ça. Seul Jésus a vaincu la haine et la mort. Et il va l'envelopper dans ce repas pascal. Et ensuite, il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Et quand on célèbre l'Eucharistie ici, en faisant cela en mémoire du Christ, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, on rend présent, vous voyez, ce que Jésus a fait sur la croix, sa victoire sur la haine, sa victoire sur la mort est rendue présente, efficace, ici sur l'autel, et ensuite, par l'Eucharistie, on reçoit ça dans mon cœur, parce que ce que Jésus veut, c'est que ce qu'il a fait sur la croix, il veut que ça s'accomplisse dans mon cœur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a inventé l'Eucharistie. C'est un petit peu comme une lettre que vous envoyez par la poste. Vous voyez, quand vous avez une lettre, vous allez la mettre dans une enveloppe, ou plutôt vous recevez une lettre, bon, vous allez regarder l'enveloppe, si on aime les timbres, on garde le timbre, mais généralement, on garde l'enveloppe pour être sûr que ça s'adresse bien à nous, et ensuite l'enveloppe, on la balance. C'est pas l'enveloppe qui est importante. Ce qui est important, c'est la lettre. Vous voyez ? Alors on peut dire, l'enveloppe, c'est comme, c'est une analogie, c'est comme la liturgie. Vous voyez, la liturgie, les signes, les codes, etc., les prières que le prêtre fait. Mais il faut dépasser ce côté de la liturgie pour aller au cœur de ce que nous donne la liturgie. Et ce que nous donne la liturgie, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. C'est pour ça que la messe, c'est d'abord un sacrifice, c'est d'abord le sacrifice de Jésus-Christ, l'unique sacrifice de Jésus-Christ qui est rendu présent. Et souvent, quand on dit « je m'embête à la messe », ça me fatigue, le prêtre il chante mal, la chorale chante mal, ou le prêtre truc, ou le prêtre chose, eh bien c'est qu'en fait on reste à l'enveloppe. C'est comme quelqu'un qui reçoit une enveloppe, il trouve que l'enveloppe n'est pas belle, et il balance. Vous voyez ? Alors qu'en fait la lettre, elle est toujours extraordinaire, parce qu'ici la lettre, le contenu, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Donc vous voyez, l'Eucharistie, c'est la messe, c'est d'abord le sacrifice de Jésus rendu présent, c'est ça qui est une croix à côté de l'autel, voilà. Et en même temps, après, on reçoit l'Eucharistie. Alors, là, il y a comme un... C'est pas une obligation de recevoir l'Eucharistie, mais on reçoit l'Eucharistie qui vient parfaire la communion avec le Christ. Et ensuite, l'Église nous invite à prolonger tout ce qui s'est passé pendant la messe dans un temps d'adoration eucharistique silencieux. Les deux verbes qui sont utilisés, prolonger, intensifier. Je m'arrête juste un instant, mais c'est un peu plus théologique, je ne veux pas trop insister, parce que... Mais prolonger, c'est-à-dire que pendant une messe, ça peut durer 30 minutes, 600 semaines, ou une heure si c'est le dimanche, vous avez le condensé, c'est un ultra-condensé de tout ce que Jésus a fait, de son incarnation jusqu'à sa passion, sa résurrection et le don de l'Esprit-Saint. Tout ça, c'est comme condensé, rendu présent sur l'autel chaque fois que la messe est célébrée, avec surtout les fruits de la passion qui sont donnés avec immense... dans notre cœur. Et donc tout ça, ça va tellement vite, on va dire, que l'adoration, c'est comme un arrêt sur image. Vous voyez, s'il y a un film qui passe à toute vitesse, en vitesse ultra rapide, tant qu'on n'arrive pas à vraiment profiter de tout, on a envie de s'arrêter sur une image, de faire une pause. Hein. Et l'adoration, ça nous permet de faire une pause. Et je vais faire une pause sur un des mystères qui est rendu présent. Par exemple, là, on va fêter Noël, je prends par exemple l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est quoi? C'est rois mages hein, qui ont fait tant d'efforts, tant de sacrifices, qui ont traversé des pays, qui ont eu tant d'épreuves, etc., pour aller adorer le Verbe incarné. Et nous, on a quoi? On n'a pas des pays à traverser, on n'a pas à traverser, pas à faire tant d'efforts, on a juste à faire quelques pas, traverser quelques rues pour aller adorer le même Jésus, le Verbe incarné, qui est encore présent ici dans l'Eucharistie. Et de même que les rois mages, vous voyez, ont déposé l'or, l'encens, la myrrhe, eh bien nous on apporte notre temps, je pense que c'est ça qu'on a quand même le plus précieux, notre or, alors ça peut être aussi notre foi, notre espérance, notre charité, qu'on donne à Jésus-Christ. Donc vous voyez, l'adoration, je vais prendre un mystère de la vie chrétienne, alors ça peut être le mystère qui est célébré dans la liturgie, parce que la liturgie nous fait vivre tous ces mystères, et je vais me poser devant Jésus. Et j'ai besoin, voilà, c'est cette phrase du psaume qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et tantôt, on a besoin de s'arrêter. Alors s'arrêter, ça ne veut pas dire rester immobile dans la rue devant quelque part. On s'arrête devant le Seigneur, on arrête nos activités pour et après c'est « sachez que je suis Dieu », c'est connaître dans ce sens de cœur à cœur, de connaître d'intimité. Faites une expérience de mon amour. C'est Dieu qui nous dit, arrêtez de courir dans tous les sens. On court tous dans tous les sens et il faut courir dans tous les sens, c'est la vie, c'est comme ça. Mais de temps en temps, il faut, voilà, sachez que je suis Dieu. Venez faire une rencontre avec moi, enfin, Dieu nous dit ça, hein, pour pouvoir faire retrouver, aller à la source de l'amour et pour pouvoir ensuite, eh bien, repartir fortifié par cet amour. Alors, donc, vous voyez, l'adoration, il y a un prolongement. Tout ce que j'ai à la messe, j'ai besoin de l'intensifier. Alors de l'intensifier parce qu'aussi il y a un acte de foi. Hein. Et j'insiste un tout petit peu sur cet acte de foi parce que c'est très important. On voit dans l'Évangile, tout ce qui s'est passé dans l'Évangile, ça se passe avec Jésus présent dans l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est vraiment l'extension de l'incarnation hein, pour nous. Dans l'Évangile, quand Jésus rencontre quelqu'un qui a la foi, il fait un miracle. Tout simple. Il y a la foi, il fait un miracle. C'était le texte du jour. Voilà, Seigneur, je veux voir, aie pitié de moi, Seigneur. Donc, il s'est mis à crier, l'aveugle. Hein, donc, ça veut dire qu'il croyait que c'était Jésus, il croyait qu'il était capable. Il a crié comme un fou, aie pitié de moi, je veux voir, et il trouve la foi. Hein. Mais, et donc, chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un qui a la foi, Jésus fait un miracle. La foi, c'est vraiment la clé qui ouvre le cœur de Jésus pour qu'il déverse sa puissance. La clé, la foi, pense à cette femme qui touche le manteau de Jésus. Et Jésus qui sent cette force qui est sortie de lui, il dit « Qui m'a touché ?» Bien, notre foi touche hein, le cœur de Jésus, libérant sa puissance, son amour guérissant sur nous, notre famille, le monde entier, chaque fois qu'on vient passer du temps avec lui, chaque fois qu'on vient le recevoir. Donc, Saint-Pierre, Julien et Marc, à ce sujet-là, souvent ce qu'ils m'invitaient, alors, quand les gens avaient fait, en fin de semaine, ils avaient fait ce qu'ils avaient pu pour porter, pour s'engager, enfin bref, on fait tous ce qu'on peut, je pense, pour rendre notre monde un peu meilleur, chacun avec ses propres moyens, ses talents, ses dons. Et à la fin de la semaine, quand on a fait tout ce qu'on a pu, eh bien, voilà, il exposait le Saint-Sacrement sur l'autel et il dit, maintenant, on va faire travailler le Saint-Sacrement. Faire travailler le Saint-Sacrement, c'est vous l'exposer et vous venez l'adorer. Vous venez poser un acte de foi. Seigneur, je crois que c'est toi le sauveur du monde. C'est pas moi le sauveur du monde. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'ai pas fait beaucoup, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais toi, par contre, tu es le vainqueur de la mort, sur la mort, etc. C'est toi, Seigneur, qui peux sauver notre monde. C'est toi qui peux sauver ma vie, c'est toi qui peux sauver ma famille, qui peux sauver, voilà, tout. Et alors, il disait, on fait travailler le Saint-Sacrement en venant l'adorer. Hein, il disait, c'est parce que nous sommes à ses pieds qu'il est sur son trône. Vous voyez, alors son trône de miséricorde, d'amour, etc. Mais dans la mesure où on se met à ses pieds, en venant l'adorer, il est sur son trône et il travaille, il agit, il change les cœurs, il change nos cœurs déjà, et ensuite il change le monde. Et alors ensuite, saint Aimar, il avait une expression assez terrible qui lui disait, alors c'est pas du tout théologique, on comprend quand même, il disait « Aujourd'hui, malheureusement, Jésus est stérile dans l'Eucharistie ». Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous comprenez qu'il n'y a aucune stérilité possible dans l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est le sacrement de la communion avec Dieu et qui nous permet de vivre une vraie communion avec mon prochain. Mais si je n'ai pas la foi, on revient à ce passage de l'évangile où Jésus venait à Nazareth. Vous vous souvenez, il avait fait des miracles à Capharnaüm et tout ça. Il revient à Nazareth et il est dit, là, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'y a pas la foi. C'est incroyable. Il venait pour faire autant de miracles qu'ailleurs, à Nazareth, mais il est écrit, là, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. Et donc, Saint-Pierre Julien Aymar, ce grand saint qui a développé, enfin, par ses écrits et tout ça, l'adoration eucharistique, il disait aujourd'hui, notre église, c'est un peu comme Nazareth, on a le Christ qui est là. Il est vraiment vivant, en personne, avec son cœur, il nous aime, il a toutes les grâces, il veut faire tant de merveilles, mais on a du temps pour tout le monde, pour toute chose, mais est-ce qu'on a du temps pour aller l'aimer, l'adorer, le rencontrer? Est-ce qu'on a du temps? Alors, il faut déjà un acte de foi. L'acte de foi, c'est ce qui me permet de sortir de chez moi pour venir l'adorer ici. Et ensuite, quand on est devant le Seigneur, eh bien, c'est l'acte d'amour pour répondre à son amour. Hein, n'oublions pas que les pères de l'Église disaient comme le grain est broyé pour devenir du pain, eh bien Jésus a voulu que son corps soit broyé, brisé, transpercé pour devenir le pain vivant qui descend du ciel. Le pain vivant que l'on célèbre tous les dimanches, qui vient dans notre cœur, qui nous attend au Saint-Sacrement. C'est Jésus, jeudi saint, hein, il donne son corps et son sang à manger et à boire, et juste après, ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi au jardin des Oliviers. Il nous invite à l'adorer. Hein. Et c'est lui qui dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». On a besoin de prier, de veiller, d'adorer, pour résister à toutes les tentations que notre monde nous donne, parce que sinon, on va perdre la foi. Hein. On risque de perdre la foi. Vous savez, à propos des doutes, parce qu'on a souvent des doutes, hein, par rapport à ce qu'il est vraiment là. Il n'y est pas, je ne sais pas, j'y crois pas. Alors j'aime bien, moi, cette phrase, je vais vous la dire. Arrêtez de croire en vos doutes et de douter de votre foi, mais essayez de douter de vos doutes et de croire en votre foi. Alors je redis, hein, il faut la retenir celle-là. Arrêtez de douter de votre foi et de croire en vos doutes, mais essayez de douter de vos doutes et de croire en votre foi. Voilà, hein. D'accord ? Donc quand on ne sait pas trop, il est là, il n'est pas là, n'essayez pas de croire en vos doutes, mais plutôt croyez en votre foi, la foi de l'Église catholique, c'est qu'il est vraiment présent, corporellement, corps sans âme, divinité, ici présent dans l'Eucharistie, avec tout son amour, il nous appelle, il nous attend, hein, et tout ce qui va contre ça, c'est des doutes, vous balayez tout ça, vous doutez de ces doutes, et vous restez sur la foi, hein, la foi de notre... Voilà, notre foi catholique. Il y a la congrégation de la foi qui a fait une toute petite... Non, congrégation du clergé qui a fait une toute petite vidéo que j'aime beaucoup, qu'on a sur l'Internet, et où on voit le témoignage de la petite Li. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la petite chinoise. Hein, c'est un témoignage assez dramatique. C'était pendant les grandes persécutions communistes, au temps de Mao. Et donc, très souvent, les communistes entraient dans les églises et puis tuaient les gens... tirer sur le tabernacle, parce que toute la foi du peuple de Dieu était tournée vers la présence de Jésus, donc il fallait arriver sur le tabernacle, fracasser le tabernacle, voilà. Et ensuite, eh bien, c'est une histoire vraie, hein. Quand ils sont rentrés, ils ont fait ça, ils ont tiré sur le tabernacle, les hostiles sont tombés, et ils n'avaient pas vu qu'il y avait une toute petite fille, petite chinoise, toute petite, qui était là en train de prier, en silence, dans un coin de cette église, ça devait être un peu le soir, et... Donc cette petite fille, elle voit ça, et alors elle arrive, il y avait les gardes qui étaient à la sortie de l'église, et alors elle arrive à passer par une petite porte latérale, et alors la première nuit, elle vient, elle se met à genoux devant le Seigneur, devant l'Eucharistie, elle adore pendant une heure, ensuite elle se baisse, hein, elle reçoit Jésus comme ça sur sa lampe, ensuite elle repart, la nuit d'après, elle revient, même scénario, se remet à genoux, et elle vient consommer la deuxième hostie, puis elle repart, troisième hostie. Et il y avait le prêtre qui était témoin de tout ça, parce qu'il était dans le presbytère qui était en face, et lui, il pouvait voir ça par la fenêtre, hein, qui donnait dans l'église. Et alors, il voit la jeune fille qui vient une fois, deux fois, 30 fois. Et les 30 hosties qui étaient tombées, et 30e jour, eh bien, elle est découverte par les soldats qui la mettent à mort. Hein. Et donc, c'est un témoin, un martyr eucharistique, et on a tellement eu de martyrs eucharistiques, de personnes qui ont donné leur vie, hein, pour adorer, pour respecter, pour recevoir dignement notre Seigneur Jésus qui est tout entier présent dans l'Eucharistie. Vous savez, il y a une phrase de saint Augustin que j'aime beaucoup qui dit, à propos de Jésus dans l'Eucharistie, il dit « Dieu, tout puissant qu'il soit, il n'a pas pu donner davantage. » Non, attendez, je vais essayer de prendre la vraie phrase. C'est mes notes. Alors, attendez, je vais trouver ça tout de suite. Voilà. Tout puissant qu'il soit, il n'a pas pu faire, il n'a rien pu faire de plus grand que l'Eucharistie. Tout sage qu'il soit, il n'a rien pu trouver de plus admirable. Tout riche qu'il soit, il n'a pas pu faire un plus précieux présent. Hein, comprenez que ce Dieu tout-puissant, infiniment grand, infiniment intelligent, infiniment tout, quand il nous donne cette petite hostie que l'on a ici, ce Dieu, il est incapable, dans sa toute-puissance, de faire davantage, parce qu'il nous donne tout simplement tout son Fils. Et quand Dieu le Père nous donne son Fils, eh bien Dieu ne peut pas nous donner davantage. Et il ne sait pas comment nous donner davantage. Si vous avez une idée de quelque chose de plus grand que cette petite hostie, dites-le à Dieu le Père, peut-être que ça va l'inspirer, mais en réfléchissant bien, vous verrez qu'il ne pourra pas trouver davantage que ce qu'il vous donne tous les dimanches, cette petite hostie que vous pouvez recevoir dans votre cœur. Dieu ne peut pas faire davantage. C'est fou de se dire que celui que l'univers ne peut contenir, ou qui contient l'univers dans sa main, Dieu n'a pas de main, mais enfin là, devant lui, celui que l'univers ne peut contenir, choisit de se contenir dans cette toute petite hostie. C'est comme il choisit de se comprimer dans sa présence divine, dans cette toute petite hostie. Pourquoi ? Parce que c'est la logique de l'incarnation. Et la logique de l'incarnation, vous savez, les trois grands reposoirs de la miséricorde, comme on dit, c'est la crèche, celui qu'on va fêter, le mystère qu'on va fêter, c'est ce Dieu de tendresse qui s'abaisse. Quand vous voyez un petit enfant, qu'est-ce que vous avez envie ? C'est de le prendre dans vos bras, de le serrer. Un petit enfant, ça attire la tendresse, on a envie de le prendre. Premier reposoir de la miséricorde. Deuxième reposoir de la miséricorde, eh bien, c'est la croix. C'est Jésus sur la croix qui donne tout. Voilà, il donne sa vie, il verse tout son sang, bref, il donne tout ce qu'il peut donner, sa personne, ses vertus. Et troisième reposoir de la miséricorde, c'est l'Eucharistie, qui en fait rend présent les deux premiers reposoirs, la crèche, la douceur, la tendresse de ce Dieu, qui se fait si petit, si humble, encore dans l'Eucharistie, et en même temps, la croix, il rend présent sa mort et sa résurrection sur la croix. Alors, deux ou trois témoignages de saints. Et ensuite, on verra deux ou trois, des quelques conseils des petits conseils spirituels pour adorer. Alors, peut-être, je ne sais pas qui on va prendre. Alors, je ne connais pas assez Saint-Louis Grignon de Montfort. Je sais qu'il a beaucoup prêché sur l'Eucharistie. Mais voilà, je ne peux pas vous donner de témoignages sur lui. Alors, je donnerai donc le premier témoignage, c'est celui que Benoît XVI a canonisé. Vous savez, c'est le bienheureux ou le saint Damien de Molokai. Vous connaissez, je pense, Damien de Molokai, c'est l'apôtre des lépreux. Alors, c'est un grand Belge au XIXe siècle qui part évangéliser dans les îles, l'archipel d'Hawaï. Vous voyez, c'est de l'autre côté des États-Unis là-bas. Et donc, il travaille là-bas, s'occuper des plus pauvres, il enseigne. Bref, tout son ministère de missionnaire. Et ensuite, il découvre un jour qu'il apprend que toutes les personnes qui sont victimes de la lèpre sont condamnées à partir sur une île du non-retour qui s'appelle Molokai, où ils sont condamnés à mourir dans une misère physique, ils n'ont aucun soin, misère morale, ils faisaient tout et n'importe quoi entre eux, et misère spirituelle parce qu'ils ne connaissaient pas le bon Dieu. Et alors, lui, il se dit, moi, je ne peux pas laisser ces gens mourir là-bas sans leur apporter l'amour, la tendresse, la miséricorde du Christ. Alors, il va prier, puis finalement, il demande à son supérieur de partir là-bas, sachant que s'il partait là-bas, il savait qu'il se condamnait à mourir lui aussi de la lèpre en vivant avec tous ses lépreux. Et au bout de pas mal de temps, ses supérieurs acceptent, contre cœur, qu'il parte là-bas, donc il y va, et il mourra de la lèpre, saint. Et alors, la première chose qu'il fait, quand il arrive, il y avait des anciennes églises qui étaient à moitié détruites. Il rebâtit un autel, comme ça. Il célèbre la messe, il rassemble les quelques lépreux qui étaient dans le coin, qu'il avait pu rassembler. Devant lui, il célèbre la messe. Ensuite, il expose le Saint-Sacrement. Et il les invite un par un. Et il reprend le passage de l'Évangile qui dit « Un lépreux vient voir Jésus, il tombe à ses pieds. Jésus lui dit « Que veux-tu ?» Le lépreux lui dit « Je veux être guéri. » Jésus le toucha, il repartit guéri. Et alors, il reprend ce passage avec les lépreux qui passaient les uns après les autres devant Jésus, présent dans l'Eucharistie. Et alors, ce qui s'est passé, peut-être que ces lépreux n'ont pas été guéris dans leur chair, mais ils ont fait l'expérience de cette miséricorde, de cet amour infini que Jésus avait pour eux, qui a complètement changé non seulement leur vie, mais l'esprit sur l'île et toute la vie de cette communauté, j'ai envie de dire, des lépreux qui étaient là. Et alors, on a retrouvé des lettres, hein, des témoignages de ces lépreux qui étaient quand même victimes de l'épreuve terrible et horrible de avec toutes les souffrances de la lèpre, et qui ont pourtant écrit des témoignages bouleversants sur leur amour pour Jésus dans l'Eucharistie, et combien ils aimaient passer du temps devant le Saint-Sacrement. Et on a même retrouvé des témoignages qui disaient que le père Damien de Molokai, il organisait des chaînes d'adoration perpétuelles où les lépreux, d'heure en heure, venaient justement adorer le Seigneur. Et alors, le saint, il disait ceci, rappelez, vous savez que dans une de ses lettres, que toute la vie de Jésus, le mot qu'il utilisait tout le temps à propos des personnes, c'était « venez à moi ». Voilà, « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et reposez-vous un peu. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive de mon cœur coulera un fleuve d'eau. Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Enfin, venez à moi, venez à moi, venez à moi. » Et alors, c'est pour ça qu'il invitait tout le monde à venir à Jésus, et lui-même, il témoigne de ceci dans une lettre. « C'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position comme la mienne ne serait pas souhaitable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, eh bien je continue d'être toujours heureux et content. Avec cette gaieté de cœur et le rire sur les lèvres, je travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux. Et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc pas, dans des conversations solitaires, de l'entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances. Faites-le avec confiance et à cœur ouvert. » Et il passait donc beaucoup d'heures, voilà, dans cette prière pour trouver la force. Pour trouver la force pour pouvoir ensuite continuer son travail auprès des lépreux. J'ai envie de dire, nous, dans cette démarche d'adoration à laquelle nous sommes invités, eh bien nous allons, voilà, on va, alors j'avais dit, on intercède comme Moïse, on va prier pour l'Église, pour le monde, grâce aux priants, Dieu donne la victoire à son Église, mais aussi de manière plus simple, on vient tout simplement déposer nos épreuves devant le Seigneur, et le Seigneur, voilà, nous relève, il nous redonne les grâces dont on a besoin pour pouvoir continuer à faire le bien, hein, qui nous demande, mais on a besoin d'aller d'abord à la source de l'amour pour pouvoir donner ensuite cet amour. C'est ça la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu répandu dans mon cœur. C'est pas mon amour à moi. Ça se rejoint, mais c'est avant tout c'est l'amour divin que Dieu me donne, et le sacrement de l'amour divin, c'est l'Eucharistie. Donc voilà pourquoi j'ai besoin de fréquenter, hein, c'est le terme de Benoît XVI, j'aime bien, autant que possible, Jésus dans l'Eucharistie pour recevoir sans cesse cet amour qui me permet d'avancer. Alors, j'aimerais juste redire un petit mot sur Sainte Faustine. Enfin, j'en ai pas parlé, mais j'avais commencé en fait à évoquer ce qu'elle a vu. Sainte Faustine, donc elle a, c'est un peu une actualisation, on va dire, du message, à mon avis, de Parelmonial. Parelmonial, c'est le Sacré-Cœur. J'espère que vous êtes allés là-bas. Il faut vraiment prier, c'est magnifique. Hein, alors, il y en a qui disent que c'est le vocabulaire un peu ancien, un peu désuet. Bon, peut-être le vocabulaire, il n'est pas ancien, mais le message, il est vraiment fantastique. C'est tout simplement, pour dire ça de manière très, j'ai envie de dire, comme on dit aux enfants du caté, tout jeune, hein, voilà, Jésus, il a, c'est un vrai homme. Non, alors c'est une personne divine, un vrai homme et vrai Dieu. Donc on va dire qu'il a, pour faire simple, un cœur d'homme et le cœur de Dieu. Alors ça forme un seul cœur, hein, ses amours, ils sont les uns ensemble. Mais Jésus, il nous a aimés avec son cœur de chair. Vous voyez, alors on appelle ça ça dans la tradition le Sacré-Cœur, c'est le cœur de chair de Jésus. Et ce cœur de chair, il nous a aimés tous passionnément. C'est-à-dire qu'il nous a aimés au point de donner sa vie. Et ce cœur de chair, il a besoin d'être aimé en retour. Si vous aimez quelqu'un passionnément et que cette personne se moque de votre amour, vous allez ressentir ingratitude, irrévérence, ressentir souffrance. Hein. Et donc c'est ce que Jésus exprime avec des mots parelmonial, je ne sais plus quel est le siècle, 18, 17, hein, c'est-à-dire qu'il dit que, eh bien, le don de son cœur, c'est cette présence dans l'Eucharistie, c'est son cœur qui va comme, c'est l'invention du cœur de Jésus, l'Eucharistie, il l'a comme inventé, c'est l'invention de l'amour, hein, normalement c'est plutôt des nœuds, c'est des inventions scientifiques, mais là Jésus il fait une invention dans l'amour, et donc il invente un moyen pour rester parmi nous, parce qu'il veut, le bon berger il ne peut pas abandonner ses brebis, et donc il faut absolument trouver un moyen pour rester parmi nous, bien qu'il soit aussi dans la gloire de Dieu, parce que c'était voilà, nécessaire de remonter dans la gloire de Dieu. Donc il invente l'Eucharistie pour demeurer parmi nous, et dans l'Eucharistie, vous avez ce cœur de Jésus qui vous aime, qui palpite, hein, c'est le cœur de Jésus qui palpite d'amour pour nous, et qui a soif d'être aimé en retour, et qui attend qu'on puisse répondre à son amour. Voilà. Et dans la terminologie de l'époque, c'était soit la couronne d'épines, soit la couronne de fleurs, enfin, j'exagère un peu, mais couronne d'épines, c'est quand on n'est pas aimé en retour, couronne de... voilà. Mais quand on répond à cet amour, on donne tellement de joie au Seigneur. Alors, c'est vrai que Sainte Faustine, elle exprime ça un peu différemment. Un soir en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l'ostensoir, il m'a semblé que c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur, derrière lui un grand nombre de dignitaires de l'Église. Plus loin encore, je vis des grandes foules que je ne pouvais embrasser d'un coup d'œil. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé, et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. C'était Jésus est exposé au Saint-Sacrement, elle vient, et elle voit ces rayons qui sortent du cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Elle voit que ces rayons ne vont pas s'arrêter sur elle, mais vont rejoindre toute l'humanité, qui reçoit un nouvel effet de la grâce divine, et ces rayons qui reviennent ensuite à l'hostie. On peut dire en autre mot, par l'adoration, on touche le cœur de Jésus, qui est le cœur de Dieu, et Dieu touche tous les cœurs de l'humanité. Voilà. Et alors, Jésus disait à Sainte Faustine, l'humanité ne trouvera pas de paix, hein, ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Pas de paix tant qu'on ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Et juste après, le trône de ma miséricorde, c'est le tabernacle. Hein, donc on peut dire, il n'y aura pas de paix véritable dans les cœurs, dans les familles, dans les paroisses, dans le monde, tant qu'on ne se tournera pas davantage vers la source de la miséricorde, qui est le cœur de Jésus présent au tabernacle. Qui est tout simplement le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la passion. C'est la victoire de Jésus sur la mort, sur la haine, la source de la paix. Hein, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Mais c'est vraiment l'Eucharistie qui amène voilà, cela, qui rend présent et efficace en nous ce qu'il a fait sur la croix. Alors, peut-être un tout petit mot sur... Non, je ne vais pas prendre Charles, je vais prendre juste Mère Teresa de Calcutta. Et après, juste pour avoir un petit temps de questions-réponses, Mère Teresa de Calcutta, donc c'est un témoignage très fort hein, de prière. Elle reprend le commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, on va adorer Dieu, on va aimer Dieu de tout son cœur dans la prière, dans l'adoration, pour recevoir cet amour qui nous permet d'aimer avec la force de Dieu. Et j'ai envie de dire, plus... Au début, elle a un témoignage assez intéressant, assez amusant. Elle commence à s'occuper des pauvres à Calcutta, et puis il n'y a pas assez de temps. Pas assez de temps. Hein. C'est un problème qui nous arrive tous, je crois, pour s'occuper de tout le monde, toute la pauvreté, toute la misère. Alors, vous savez, bon, il faut quand même que je... Qu'est-ce que je vais faire ? Elle se plaint un peu au Seigneur, et le Seigneur lui inspire de faire une heure d'adoration par jour, parce qu'elle n'a pas assez de temps. Voilà. Une heure d'adoration par jour. En d'autres mots, elle avait déjà la messe, elle avait déjà les lots, les vêpres, elle avait déjà plein de choses. Hein. Elle est religieuse, elle avait toute sa vie. Et en plus, comme elle a passé de temps, il faut perdre une heure d'adoration, une heure par jour dans l'adoration. Et elle témoigne dans ses lettres, c'est à partir du moment où elle a donné encore cette place supplémentaire à Jésus dans la prière, que le Seigneur lui a donné les grâces, la fécondité spirituelle, les vocations dont elle avait besoin pour s'occuper non seulement personnes en souffrance, les pauvres de Calcutta, mais combien de pays dans le monde ont pu accueillir les religieux, des petites missionnaires de la charité. Alors, le pape Benoît XVI, vous savez, dans sa grande encyclique « Dieu est amour », il écrit ceci, « La prière comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ devient ici une urgence tout à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement à l'action. » La piété n'affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. Vous voyez, la source de l'efficacité, de l'activité, de l'amour envers le prochain, c'est notre relation avec Dieu. Hein, c'est lui la source de tout amour. Et à propos des vocations, vous savez, alors c'est un cardinal qui s'occupait des prêtres, congrégation du clergé, c'était en 2008, et donc il demandait que dans tous les diocèses, on ait des lieux d'adoration perpétuels, jour et nuit, pour prier pour deux choses. C'était la sanctification des prêtres. Plus nos prêtres sont saints, plus on sera saint, plus on est saint, plus ça va ensemble, hein, et en même temps les vocations religieuses et sacerdotales. Et donc le cardinal invitait tous les évêques, hein, dans le monde entier à avoir ces lieux d'adoration perpétuelle pour demander les vocations. Vocation religieuse, sacerdotale, se demande à genoux, hein, devant le Seigneur, qui est la source, qui est celui qui donne les vocations. Et alors il parlait d'une maternité spirituelle. Une communauté paroissiale, une ville qui adore, devient comme une mère spirituellement. Alors une mère, elle donne la vie, un enfant. Et donc ici, il explique dans son analogie, hein, paraphrase, en gros c'est ça, eh bien il dit que c'est la communauté paroissiale est comme l'épouse, Jésus est l'époux, et dans ces noces divines qui sont autour de l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'Alliance, de l'union avec Dieu, eh bien l'enfantement, c'est des vocations religieuses et sacerdotales. C'est-à-dire que c'est une communauté paroissiale qui, par sa communion avec Jésus dans l'Eucharistie, enfante la sanctification pour le clergé et les vocations religieuses et sacerdotales dont l'Église a besoin pour continuer à annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est le message que le cardinal, le préfet des prêtres, a demandé à tous les évêques. Alors, pour revenir à Mère Teresa, un dernier petit exemple, témoignage, elle dit ceci: « Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, nous sommes aperçus d'un changement dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond pour le Christ à travers le masque affligeant des pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître et mieux connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis que nous avons commencé cette adoration du Saint-Sacrement, nous n'avons pas diminué notre travail, nous y consacrons autant de temps qu'auparavant, mais avec plus de compréhension. Les gens nous acceptent mieux, ils ont faim de Dieu. Ils n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus. » Hein ? En gros, les trois grâces qu'elle reçoit, qu'elle témoigne ici, une grâce de vraie charité pour vivre avec ses religieuses, une grâce en discernant la présence de Jésus sous les apparences de pain, elle reçoit la grâce de reconnaître Jésus dans le prochain, hein, c'est une grâce eucharistique de reconnaître cette présence sous les apparences du pain de Jésus pour pouvoir reconnaître notre Seigneur à travers le masque affligeant, comme elle dit, du prochain quand il est en souffrance, quand il est malade, quand il est... Et en même temps, troisième grâce, ils disent les pauvres n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus, qui passe par elle. Vous voyez, donc ça, c'était son témoignage. Et elle disait toujours, leur sainte devant l'Eucharistie doit nous conduire avec leur sainte avec les pauvres. C'est vrai qu'on passe de l'un à l'autre. Et juste un petit passage qui s'est passé pour le pape François. Vous savez, il est allé à Assise il y a quelques jours. Enfin non, c'était pour la Saint-François d'Assise, il y a un mois. Quelques jours. Et alors, il a commencé par aller dans un centre d'enfants qui avait des handicaps très lourds. Hein, et alors, comme d'habitude, on lui avait préparé un petit enseignement, il a mis à la poubelle l'enseignement, il a voulu improviser un petit truc magnifique, hein, je vais essayer de vous dire ce qu'il a dit. Alors d'abord, ce qu'il a fait, il a fait le même geste que Saint François d'Assise. Vous savez, Saint François d'Assise, quand il a vu ce lépreux, un peu ce qui a déclenché sa conversion, sa mission, il a pris un lépreux, il a embrassé ce lépreux. Au début, il n'arrivait pas, et puis à partir du moment où il a fait, il a ressenti une immense joie. Il est devenu ce grand apôtre, hein, des plus pauvres, et puis il est devenu Saint François d'Assise. Et là, je ne sais pas si vous avez vu sur les images, hein, on voit le pape François qui a pris un enfant qui est vraiment... très marqué, hein, je veux dire, très 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 marqué, et c'est juste l'image, ça fait froid dans le dos, et il a pris cet enfant, il l'a serré contre lui, hein, c'était quelque chose de, pour moi je trouve extraordinaire, fabuleux, et ensuite, il a tout simplement, improvisé un petit enseignement en disant, vous voyez, il a parlé des plaies de ces personnes, de ces enfants, elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin d'être contemplées, on a besoin de passer du temps avec, il parlait de ça, et juste après, il a montré que ces plaies, elles sont aussi dans l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, ça rend présent Jésus sur la croix.
Et sur la croix, il a toutes ces plaies. En fait, c'est notre péché, c'est le manque d'amour, c'est le manque de charité dans le monde. Il y a tellement de haine dans le monde, c'est les plaies du Christ. Et il disait que ces plaies du Christ aussi, dans l'Eucharistie, elles ont besoin d'être écoutées, elles nous appellent. Et il montrait que ces deux, les plaies hein, de ses enfants, dans ses enfants, ont besoin, nous appellent, nous interpellent, nous invitent à donner du temps. Et de même, les plaies de Jésus dans l'Eucharistie nous invitent aussi à donner du temps, à nous donner. Hein, voilà. Et donc il nous montrait que, voilà, le Christ nous appelle dans l'Eucharistie, le Christ nous appelle dans le prochain. Les deux vont vraiment ensemble, mais l'un nous conduit à l'autre et réciproquement. Alors, juste quelques petits conseils. Voilà. C'est Saint-Pierre, Julien et Marc, juste deux ou trois petits conseils sur le comment adorer. Alors, il n'y a pas de méthode. Hein. Si vous avez une méthode qui marche pour vous, super, mais n'essayez pas de la donner à votre voisin, ça ne marchera pas pour lui. Parce que, voilà, c'est un cœur à cœur. Vous voyez, vous allez rencontrer une personne. Voilà. Donc, il faut, si vous arrivez avec votre cœur, avec une volonté de l'aimer, vous avez la méthode idéale. Hein. Alors après, bon, il y a quand même des choses à éviter, on va dire, mais avant tout, ce qui compte, eh bien, c'est de pouvoir venir avec son cœur rencontrer cette personne hein, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est là, qui nous appelle, qui nous attend. Alors, tout d'abord, on peut dire, je me souviens d'un petit témoignage quand j'étais séminariste. Alors, une fois, j'étais reparti dans la... j'étais à Carpentras à l'époque et j'étais allé prier le chapelet avec un groupe de dames et il y avait une dame qui avait sa version du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite. Une fois, deux fois, trois fois à la fin, j'ai dit c'est pas possible celle-là. À son âge, c'est fichu. Voilà. Et après, en réfléchissant, je me suis dit mais moi quand même quand je prie pourquoi ? Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, il faut faire ceci. Seigneur, n'oublie pas cette personne-là. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même si je disais la bonne parole, que ta volonté soit faite, dans mon cœur, je priais que ma volonté soit faite. Vous voyez ? Et donc, l'adoration va m'aider. C'est pour ça qu'il faut du temps. C'est pour ça qu'on invite à passer un peu de temps avec le Seigneur. Si possible, une heure, il nous invite, une heure au Jardin des Oliviers. Donc, c'est, voilà, on prend cette base hein, d'une heure. Mais pour passer de sa volonté à la volonté de Dieu. Hein, sa volonté personnelle, propre à la volonté de Dieu. Et souvent, nous chrétiens, on veut faire du bien, et je pense qu'on fait tous du bien, mais ça nous arrive de faire un peu notre volonté pour Dieu, et non pas la volonté de Dieu. Et on peut se disperser dans la charité, on peut faire des choses qui sont très bien, mais qui ne sont absolument pas ce que le Seigneur nous demande. Alors, normalement, grâce à Dieu, l'Esprit Saint est là, il nous aide, il nous conduit. Mais quand même, voyez, l'adoration, eh bien, je suis posé devant le Seigneur. Et le Seigneur va me donner sa volonté, et il va me donner la grâce de l'accomplir. Alors, comment ça va se réaliser, je ne sais pas. Peut-être vous allez avoir une intuition. Ah, il faut que j'aille voir cette personne, mais évidemment. J'ai oublié, c'est elle, il faut absolument. Et la personne nous attend, on avait oublié, je ne sais pas. Voilà. Ou alors, à la sortie de la chapelle d'adoration, vous allez rentrer dans quelqu'un, c'est la personne que vous deviez aller voir ou rencontrer, ou je ne sais pas, les circonstances vont être différentes, mais ça va changer, vous voyez, parce qu'on se met devant le Seigneur pour écouter sa propre volonté. Moi, je vois bien, en tant que prêtre, si je ne commence pas ma journée par la prière, par l'adoration, ben, ma journée, ça va être à l'envers, quoi. Je veux dire, je vais perdre du temps, je vais tourner en rond, je vais être au mauvais rendez-vous, la personne ne sera pas là, ou la personne que je dois voir, je ne sais pas quoi. Et quand je prends ce temps qui est en temps crucifiant pour moi, parce que j'ai tellement de choses à faire, je me dis, il faut absolument que je commence plus tôt, tant pis, la prière, je ferai demain, je ferai le double, je demande à mon ange gardien de le faire. Ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu facile. Hein. Si je commence, et alors, t'entends, c'est vraiment crucifiant de faire cette prière, cette adoration le matin, mais chaque fois que je fais, eh bien, je vois que la journée, voilà, le Seigneur est là, il arrange la journée, hein, il me permet de faire des choses que j'aurais même pas pu imaginer, et de faire en fait sa volonté. Voilà, il fait tellement de choses. Alors, après, il y a ce passage, vous savez, t'entends, on arrive devant le Seigneur, et puis on parle, on explique plein de choses, mais n'oublions pas cette parole, hein, le petit Samuel, quand il entend la voix de Dieu, il dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et nous, quand on vient adorer, on dit « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. Hein » Voilà. Alors, à vous d'essayer d'imiter hein, le petit Samuel. Donc, quand on vient adorer, voilà, c'est sûr qu'on vient parler, on dit au Seigneur tout ce qu'on veut, c'est bien, mais il y a un moment, il faut absolument avoir un moment où on laisse le Seigneur agir, on laisse le Seigneur toucher notre cœur, on laisse le Seigneur, c'est lui, comprenez, qui a quelque chose à nous dire, beaucoup plus que ce que vous, vous avez des choses à lui. Il est très content quand vous lui racontez votre vie, hein, il aime beaucoup, mais avant tout, il aime encore plus quand vous pouvez tout simplement dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors, voilà. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir ? L'amour est la seule porte du cœur. Hein. Et donc, le but de l'adoration, c'est de se décentrer de soi-même pour se centrer sur le Christ. Mais tant en temps, on arrive centré sur nous avec ses problèmes, nos problèmes, et on reste sur nos problèmes pendant toute l'adoration, et en fait, on repart avec nos problèmes. Voilà. Mais si vous pouvez laisser à l'entrée de la chapelle d'adoration vos problèmes à la porte, eh bien ensuite, le Seigneur, voilà, commencez par lui, sa présence. Il est là, et lui, il peut tout. Donc commencez par lui, plutôt que par vous, et commencez par l'amour, et vous verrez qu'ensuite, eh bien, il y aura un temps, évidemment, pour reprendre nos problèmes, nos soucis, on les dépose au Seigneur, on sait qu'il nous écoute, qu'il nous bénit, et qu'il nous donne, voilà, qui répond à nos prières. Attendez, je ne la trouve pas, je crois que je l'avais mise là. Quand vous allez adorer, voilà, commencez, regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 3 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Voilà, vous avez une heure de paradis chaque semaine. Hein, on vous donne une heure au paradis, une heure avec Jésus. Voilà. Et donc, de même que nous, quand on rencontre quelqu'un qu'on estime beaucoup, on va se préparer physiquement, psychologiquement, moralement, etc. Eh bien, pensez que préparez votre cœur pour ce rendez-vous d'amour. Ça changera tout. Vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, je vais aller rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, enfin notre Seigneur, notre Dieu, tout simplement, qui est là. Et voyez les trois verbes, j'aime bien. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. C'est beau, je suis invité, attendu, désiré. Vous êtes désiré par notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui nous attend ici au tabernacle. Voilà. Alors, ce que je disais au tout début, quand vous prenez ce temps d'adoration, n'hésitez pas enfin, c'est important de prendre la parole de Dieu, hein, et vous découvrirez que ce que Jésus a fait, vous lisez la parole de Dieu, et puis vous découvrez, voilà, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, pour les personnes qui l'ont approché, il va le reproduire pour vous, il ne change pas, il va faire la même chose, il va donner son amour de la même manière, et donc, regardez comment les amis de Jésus ont approché Jésus, imitez-les. Ça peut être comme les mages qui se prosternent profondément, ça peut être comme Marie-Madeleine qui pleure au pied de Jésus, ça peut être comme les disciples pleins de fougue qui voulaient annoncer au bout du monde, etc. Ça peut être comme la Vierge Marie au pied de la croix, ça peut être comme, enfin voilà, donc vous voyez, tous les disciples, tous les amis de Jésus, ils avaient des attitudes différentes. C'est les attitudes que vous pouvez faire, et sachez que Jésus fera la même chose. Donc vous pouvez lire, quand vous lisez l'Évangile, rajoutez, vous voyez, quand Jésus dit, vous dites, Jésus, au Saint-Sacrement, me dit, vous voyez, et ce qu'il a dit, voilà, ce que vous lisez devient vraiment vivant dans la mesure où vous avez Jésus vivant, le même qu'il y a 2000 ans, sous un mode différent, mode eucharistique, sacramentaire, mais c'est quand même Jésus qui est bien vivant. Donc, utilisez le chapelet, hein, utilisez le chapelet. Utilisez la Bible. Alors, justement, le chapelet, j'en profite, utilisez aussi le chapelet. Hein. Ça, c'était la prière de Mère Teresa de Calcutta. Son heure d'adoration quotidienne, c'était le chapelet. Elle priait le chapelet pendant 15-20 minutes. Et après, elle prenait un temps d'adoration silencieux pour laisser Jésus parler à son cœur. Et elle expliquait que, en fait, la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle me prend par la main. C'est elle la parfaite adoratrice. C'est elle qui a une foi à déplacer les montagnes. C'est pas moi. Enfin, peut-être vous, mais pas moi. Hein ? Et donc, c'est la Vierge Marie. On a besoin de la Vierge Marie. On prend la Vierge Marie et puis, en fait, avec la Vierge Marie, elle vient suppléer tous les manquements de foi, d'espérance, de charité. Et quand on adore avec la Vierge Marie, Jésus reçoit notre adoration comme si c'était Marie qui la faisait elle-même. Hein ? Et après, on peut mettre toute la spiritualité de Saint-Louis-Guillaume de Montfort. Mais En tout cas, voilà, si on acquiert le chapelet sur une question qu'on pose, est-ce qu'on peut prier ? Oui, parce que la prière, même si on est devant l'Eucharistie, on dit « Je vous salue Marie », mais on sait bien que Marie n'est pas là dans l'hostie, hein, mais Marie, elle est à côté de moi et elle m'aide à regarder l'hostie et à recevoir la grâce. Hein. Marie, c'est Jésus, c'est le modèle du don et Marie, c'est le modèle de la réception, la réceptivité. C'est celle qui reçoit parfaitement la grâce de Dieu et en qui la grâce de Dieu ne trouve aucune résistance. Et si vous priez la Vierge Marie, la grâce eucharistique ne trouvera aucune résistance dans votre cœur. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de la Vierge Marie, hein, parce qu'elle est la mère, hein, la médiatrice de toute grâce et même des grâces eucharistiques. Voilà, juste un dernier point, et après si on a des questions-réponses, le combat spirituel, voilà, tantôt c'est dur, tantôt c'est facile, souvent quand on commence l'adoration, alors là on va inviter ce dimanche, ce week-end, un peu à les messes des paroisses ici, à Notre-Dame et à Saint-Louis. Voilà, donc tous les gens pourront participer. Alors on va distribuer des invitations, inviter les gens à choisir une heure. Hein, j'expliquerai ça dans l'homélie, je ferai une petite homélie, ce sera plus court que ce soir, ne vous inquiétez pas. Et après, voilà, j'espère qu'on aura beaucoup de réponses, beaucoup de personnes qui donneront une heure par semaine pour être avec Jésus dans ce, pas ce lieu, mais l'autre ou le presbytère. Bref. Quand on commence l'adoration, très souvent le Seigneur nous encourage, il est tout content. Donc, il est tout content, donc il nous donne des grâces très sensibles. C'est-à-dire qu'on ressent son amour, on ressent sa paix, on ressent sa joie. Puis l'heure d'adoration, hop, elle passe d'un coup. Quoi. On a l'impression qu'en 5 minutes, on a passé 5 minutes, en fait on a passé 1 heure. Tantôt ça nous arrive, hein, d'avoir des grâces très très sensibles comme ça, où on expérimente une immense joie, ça, c'est si facile. Et puis un jour on vient, et puis là on comprend pas ce qui se passe, on n'a pas trop envie de venir. Et puis, au bout d'un moment, on regarde sa montre, 2 minutes, que 2 minutes sont passées, j'ai l'impression qu'il y a 1 demi-heure qui est passée. Alors, on a des pensées, on se dit peut-être le prêtre s'est trompé, il a peut-être mis une hostie non consacrée, vous voyez, hein, ça marche pas, là, il n'y a pas l'effet, là, le truc qui touche normalement, mais là, non. Et en fait, à ce moment-là, le Seigneur, voilà, il donne une grâce beaucoup plus intérieure, vous voyez, comme le risque, c'est toujours se dire, ouais, on va faire une sorte de petit yoga spirituel, je me mets devant cette présence et puis je me sens bien. Et donc, en d'autres mots, on va adorer parce que je me sens bien. Donc, en fait, on vient un petit peu s'adorer soi-même. Et quand ça arrive, et ça arrive toujours, le Seigneur, hop, il enlève le côté sensible, hein, parce que sinon, on vient pas adorer Dieu, on vient pour soi. Et pour pouvoir entrer dans ce dépouillement, vous voyez, le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est Jésus, l'Esprit, il y a toujours son Esprit Saint qui est là et qui agit différemment. Et tantôt, l'Esprit Saint, ça peut être l'aridité qui vient couper en moi tout ce qui n'est pas bon dans ma démarche spirituelle. Ça peut être une épreuve très dure, très pénible, très éprouvante, très aride et désertique, mais c'est quand même l'Esprit Saint qui me met dans une juste attitude, qui travaille en moi, qui racle, qui enlève tout ce qui n'est pas bon. Hein, et ça, c'est aussi la présence de l'Esprit-Saint. Et donc, quand quelqu'un me dit « moi, j'adore plus parce que je ne ressens plus rien », j'ai envie de dire « mais dans ce cas-là, vous n'avez jamais adoré, on ne va pas adorer pour ressentir ». Alors, on a, grâce à Dieu, beaucoup de ressentis, on ressent cette présence, mais avant tout, on vient adorer pour lui. L'attitude juste, c'est quand vous venez adorer, si elle n'est pas pour vous, repensez à Moïse, il vient intercéder pour l'Église, le monde. Mais voilà, on vient rendre grâce à Dieu, l'adorer lui. Si on ressent plein de choses, béni sois-tu Seigneur. Si on ressent rien, béni sois-tu Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas le petit ressenti, ce qui touche l'épiderme, là, quand on adore. Hein, mais c'est vraiment ce que Dieu fait dans notre cœur et dans notre monde. Et saint Pierre Julien Aymar disait, voilà, vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez alors votre âme vers le ciel comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse, tout se révolte en vous, tout vous porte à quitter l'adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation, c'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous n'y déplaisez pas, vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Voilà. Bon, vous voyez, c'est des petits conseils. Alors, c'est vrai que ces conseils-là, ils sont. C'est le père Saint-Pierre Julien Aymar qui nous a donné. Alors, une fois de plus, c'est du 19e siècle, mais je vous promets, en lisant les plus beaux textes récents des papes, je trouve qu'il y a quand même un sommet, hein, de spiritualité dans tout ce que Saint-Pierre Julien Aymar a dit, hein, c'est vraiment une merveille. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions, je vais répondre aux questions. S'il y en a qui veulent l'un ou l'autre bouquin, il y a deux ou trois bouquins, dont ce bouquin-là de Saint-Aymar. Il y a un bouquin de prière, un peu plus simple, ça c'est un peu plus théologique. Et puis un petit bouquin avec Marie. Et puis il y a une revue aussi qu'on publie tous les mois. C'est, on est une petite communauté, voilà, on est diocésain, mais en même temps on est une communauté qui, voilà, qui vient prêcher des chapelles d'adoration, enfin lancer des chapelles d'adoration à la demande des prêtres, des évêques. Et il y a toujours des témoignages, des paroisses adoratrices. J'espère que dans 2-3 mois, il y aura le témoignage de la Roche-sur-Yon avec les grâces que le Seigneur a fait, etc. Hein, donc c'est comme une passerelle entre les adorateurs et un petit journal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou vous pouvez dire hein, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des points que j'ai oubliés. J'ai parcouru pas mal de points, mais un peu vite. Sans... Oui. S'il n'y en a pas, ben c'est que vous ne les recevrez pas, mais c'est que c'est moi qui les recevrai à l'autre bout de la France. Parce que si vous ne les voyez pas ici, c'est qu'elles sont données ailleurs, à ceux qui en ont le plus besoin. Hein, voilà. Mais le Seigneur, il ne peut pas ne pas donner sa grâce. Vous voyez, Paul VI, il disait l'adoration eucharistique, c'est un doux devoir. J'aime bien parce que c'est un devoir. Parce que c'est un devoir, c'est le premier commandement, c'est dans la vertu de la justice, c'est un devoir d'adorer Dieu. Mais c'est un doux devoir parce qu'il nous donne sa douceur. Il nous donne tellement de grâce, tellement de bénédictions. Et c'est impossible qu'il ne vous donne pas de grâce, sinon c'est une hostie non consacrée. Et là, il faut voir vos prêtres, hein. C'est pas possible. Voilà. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est que de temps en temps, on peut venir prier pour des grâces parce qu'on a des grandes souffrances. Et il y a des moments où c'est vrai que... On n'est pas vraiment... la situation est encore aussi difficile, conflictuelle. Alors le Seigneur nous invite à la persévérance. Mais je pense qu'il y a une grande communion des saints. L'Eucharistie, cette prière ecclésiale. Vous voyez, vous êtes en communion avec la tête, c'est Jésus, qui vous rend solidaire de toute personne sur terre. Et c'est possible qu'à un moment, il y ait une personne qui ait plus besoin de vous que la grâce que vous demandez et que le Seigneur le donne à une autre personne. Voilà, dans cette grande communion des saints. Et d'un côté... Ça peut vous arriver à vous tentant de sentir qu'il y a quelqu'un qui prie, peut-être un adorateur au Vietnam ou aux États-Unis qui prie et qui ne ressent rien du tout. Et à un autre moment, vous priez, vous ne ressentez rien du tout parce que la grâce, elle part à l'autre bout du monde. Enfin, voilà, il faut laisser le Seigneur faire son travail et c'est ce qu'il fait. Hein, quand on sera au ciel, on verra. Mais c'est sûr que ça, voilà, il y a beaucoup de grâce, hein, mais qui trouvent toute leur source hein, dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Oui. Selon son cœur et selon notre besoin et dans son temps. Voilà. Mais c'est tout à fait d'accord, le ressenti, Dieu peut le donner pour nous encourager parce qu'on a un ressenti, hein, et il nous l'a donné aussi, mais c'est vrai que très souvent, la plupart du temps, c'est pas du tout du ressenti. Et Dieu donne très souvent complètement différemment. Hein. Pensez à Charles de Foucault, qui passait des heures devant le Saint-Sacrement, il voulait avoir une communauté, etc. Rien fait. Enfin, en son temps, il a baptisé une personne, il y a eu deux personnes qui ont fait leur première communion, il y a eu zéro communauté, à la fin, il a terminé assassiné. Tous ses projets n'ont pas vu le jour. Mais ce qu'on sait, c'est que, et pourtant, il avait une vraie communion. Il priait 10, tant temps, il disait « Quelle joie, Seigneur, passer plus de 15 heures en n'ayant rien d'autre à faire que te dire « Seigneur, je t'aime et te regarde ». Donc il passait tant temps des journées entières dans l'adoration, ou des nuits entières surtout. Et Et alors après, pourtant, on sait qu'à sa mort, ce n'est pas une communauté, mais c'est aujourd'hui 400, 450 communautés qui existent dans le monde, qui trouvent leur inspiration dans la grâce, dans le témoignage de Charles de Foucault. Et donc souvent, on demande quelque chose, mais Dieu veut nous donner tellement plus, et il nous donne tellement plus, mais en son temps, différemment, et etc. Voilà. Il y a un témoignage que je trouve très, que j'aime beaucoup, c'était une communauté de religieuses contemplatives qui était aux États-Unis et qui avait comme mission de prier pour les vocations. Et alors c'était très adoratrice, elles adoraient le jour et la nuit. Et puis petit à petit, leur communauté a diminué, il y avait de moins en moins de sœurs, et à un moment, plus de sœurs du tout, et ça a été vendu à des évangéliques qui en ont fait, c'est une grande maison, leur séminaire, leur lieu de formation, pour former des pasteurs évangéliques. Donc on va dire, au point de vue fécondité, c'était pas trop le but des sœurs, quoi, de former des pasteurs évangéliques. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce séminaire, eh bien, il y a eu un nombre très important de pasteurs évangéliques qui se sont convertis et qui sont devenus les plus grands défenseurs de la foi catholique qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Dont Scott Hahn, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a étudié dans ce lieu-là et qui a reçu une grâce de conversion fantastique et qui est un des plus grands défenseurs de la foi catholique. Donc voilà, Dieu, il est tellement au-delà de les religieuses voulaient des vocations pour leur communauté, ben Dieu, il a fait les choses différemment et certainement beaucoup mieux que ce qu'elles avaient pu imaginer. Et Dieu fait ça dans notre vie aussi. Oui.
Je suppose que la taille de l'hostie exposée n'a pas d'influence sur la somme de grâce reçue. Et dans ce cas, pourquoi y a-t-il plusieurs tailles?
Alors, j'aurais envie de dire avec un peu d'humour, si plus c'est grand, plus vous avez la foi, dans ce cas-là, plus vous avez la foi, plus il y aura des grâces. Hein. Mais bon, ça c'est un peu... Non, c'est sûr que... Pourquoi il y a plusieurs tailles d'hostie? Parce que normalement, c'est quand même cette tradition qui est venue, je crois que c'est à l'église Notre-Dame à Paris, ou au XIIe siècle, les gens voulaient voir l'hostie, et donc on a commencé l'élévation. Hein, l'élévation, alors on était face à Dieu, hein, et donc le prêtre faisait sa messe comme ça, et puis à un moment, le peuple de Paris, ils ont dit, mes amis, vous êtes gentils et prêtres, et nous, on a donc à voir quelque chose. Et donc le prêtre, on a commencé à élever l'hostie, hein, comme ça, pour pouvoir poser nos yeux de chair, hein, sur la chair du Christ ressuscité dans l'Eucharistie. Donc on a commencé l'élévation, c'est vers le 12e siècle, si je ne me trompe pas, peut-être un peu avant le 11e siècle, je ne sais plus. Voilà. Alors après, j'ai envie de dire, bon, ben, la taille de l'hostie, enfin, c'est pendant la messe que vous dites ça, ou pendant l'exposition de vie? Oui, bon, ben voilà, tout dépend. Si c'est une très grande église, ici, c'est certainement beaucoup d'adorateurs, donc il faut mettre une grande hostie pour voir un petit peu, hein, l'hostie, mais si vous êtes, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est bien dans la foi, la plus petite parcelle, comme la plus grande hostie, contient la plénitude de la. Le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, surtout la plus petite parcelle aussi, hein, et quand on communique, c'est la parcelle qui tombe, et ça, c'est vraiment typique.
Quelle est la différence entre l'adoration et l'oraison?
Voilà, alors, normalement, cette question, c'est la première, mais là, je ne sais pas pourquoi, c'est la quatrième, c'est pas normal. Pour mes amis en Vendée, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, cette question, il n'y a que les Français qui se posent cette question, je ne sais pas pourquoi. En fait, pour dire les choses simplement, parce qu'on peut, on touche des choses qui peuvent être très théologiques, vous voyez, la différence entre l'oraison, l'adoration, les différents modes de prière, vous savez, il faut déjà se rappeler le Christ qui remonte à la droite de Dieu pour l'ascension, il dit, il laisse ses disciples dans un paradoxe terrible, il dit, je remonte vers mon Père et votre Père, mais je suis avec vous pour toujours. En d'autres mots, il part, mais il dit qu'il est avec eux. Comment on peut partir et rester, hein? Il n'y a que Dieu qui peut le faire, et il l'a fait 9 jours plus tard. Eh bien, l'Esprit Saint est descendu, et quand l'Esprit Saint est là, le Christ se rend présent sous différents modes. C'est Paul VI qui explique quels sont les modes de présence du Christ à son Église, les manières pour nous de rencontrer le Christ. Alors, comment vous rencontrez le Christ tous les jours? Je vous pose la question. Il y en a 7. Il y a 7 bonnes réponses, 7 manières de rencontrer le Christ. Alors, quelles sont-elles? La parole. Ensuite, alors la messe, on va dire l'Eucharistie. Alors sachant qu'on met aussi les sacrements, hein, c'est-à-dire quand le prêtre célèbre in persona Christi, vous savez, c'est dans la personne du Christ. Quand le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ce n'est pas le prêtre qui pardonne, mais c'est le Christ. Par le prêtre, pardonne tous les péchés. Quand le prêtre est associé au corps, ce n'est pas le prêtre qui donne son corps, mais c'est le Christ qui emprunte la voie, la personne du prêtre pour donner son corps. Hein. Donc, les sacrements, alors l'Eucharistie, je fais voilà, quatre autres. Voilà. Alors, c'est quoi les paroles bibliques là hein? Vous savez, la différence entre une Bible catholique et une Bible protestante. Une Bible catholique, on peut la ramener au libraire 10 ans après, et il ne verra pas la différence. Voilà. La Bible protestante, elle est toute abîmée, rayée, déchirée. Voilà. Alors, je plaisante, mais c'est un peu ça. Hein? Il faut que nos livres, un peu abîmés, quand on les utilise, on les met sans petite chamée, et on peut la ramener 10 ans après. Mais, alors, Jésus n'a pas dit je suis présent dans les assemblées de prière. Qu'est-ce qu'il a dit précisément? Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis dans le milieu de Dieu. Voilà, donc dans tous les groupes de prière, il est présent réellement au milieu de Dieu. Et ensuite, par rapport à la charité, il avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous faites à l'aise et petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein? Voilà. Et ensuite, le Christ est présent en nous par la foi. Donc le Christ. Donc vous voyez, tout ça, c'est des modes de présence. On rencontre vraiment le Christ. Et on ne peut pas dire c'est mieux là que l'autre, je ne sais pas comparer, parce que Dieu, il se donne comme il veut, comme il veut. Il va se donner plus à l'un, de cette manière-là, à l'autre, ainsi, ou je ne sais quoi. Toutefois, si on reprend les textes de l'Église, il y a quand même une présence spirituelle du Christ, qui est présence spirituelle, mais ici, on a une présence corporelle. Et le prêtre ne dit pas Jésus en vous donnant l'hostie, il dit le corps du Christ. Et saint Paul dit en lui, habite corporellement la plénitude de la divinité. Plénitude de la divinité passe par le corps du Christ et ce contact avec le corps du Christ. Donc, le corps du Christ dit, Paul VI dit, on reste émerveillé devant toutes ces formes présentes du Christ, pourtant bien autres, et le mode selon lequel le Christ est présent dans l'Eucharistie. Il est la source, le sommet de toute cette présence. Mais bon, pour dire les choses tout simplement, il y a l'adoration, on va dire, c'est un face-à-face. Vous voyez, il y a Jésus qui est exposé, et vous êtes là, face à face. L'oraison, c'est un cœur à cœur. D'accord? Mais en fait, l'adoration, c'est quoi? C'est que je fais un face à face pour vivre un vrai cœur à cœur. Parce que ça se passe dans mon cœur, de toute façon. Et donc, aujourd'hui, on pense souvent qu'on peut faire l'économie du face à face pour vivre le cœur à cœur. Peut-être certaines personnes, certaines âmes privilégiées, qui ont vraiment une formation très très intense et qui ont vécu, voilà, peuvent vivre ce cœur à cœur sans nécessairement passer par l'Eucharistie. Mais comprenons que l'Église nous invite vraiment à le faire parce qu'aujourd'hui on est dans une société tellement blessée, on est tous blessés, en essayant de descendre, rejoindre le Christ, en nous très souvent on retourne sur ses blessures, on retourne sur le moi, sur le propre ego, et en pensant qu'on rencontre le Christ dans son cœur, eh bien on retourne sur soi-même. Alors oui, de temps en temps, il faut le faire, sans cesse, on essaie de faire l'oraison, mais vous voyez, l'Église, elle nous dit, écoutez, vous avez un moyen, hein, c'est dans l'ordre de l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui choisit de s'incarner, il prend un corps, et par ce corps, il donne la grâce. C'est pour ça qu'on vient à la messe, on pourrait prier dans la nature, le psaume, tout ça, il faut le faire, c'est très bien, mais la messe, c'est un sommet, on reçoit le corps. Et l'adoration, eh bien, on revient à la source, vous voyez, que face à face, je suis devant une présence objective du Christ qui est vraiment là devant moi, et donc je sais que je vis un cœur à cœur parce qu'il est là, présent devant moi. Je ne retombe pas sur moi-même, bien qu'on puisse aussi un peu errer dans son adoration, mais normalement, vous voyez, l'Église nous invite à vivre le face-à-face hein, pour vivre le vrai cœur à cœur. Donc je crois que là, il faut simplement une question d'obéissance aussi à ce que l'Église nous invite à faire, et derrière ça, il y a des sagesses. Moi, ce que je vois aussi, en manière plus pratique, faire 1 heure d'oraison chaque semaine, une vraie heure, où on est chez soi, on ne bouge pas, et on prie vraiment Dieu dans son cœur, c'est très difficile. Ça se fait, et c'est très difficile. Très souvent, on est chez soi, le téléphone qui sonne, il y a un bruit, il faut faire ça, on pense à tout ce qu'on n'a pas fait, et puis on est dans tous les sens, et on va faire 3 minutes, en fait, hein, ça devient plus de 3 minutes, voire peut-être moins. Alors que là, quand on arrive à la chapelle, on débranche le téléphone, et puis il y a la dimension ecclésiale de l'Eucharistie. On est les uns après les autres, c'est pas simplement ce cœur à cœur, mais j'y vais, pensez ce que je disais au début, au nom de l'Église, porter l'Église et le monde. Je suis tendu entre le ciel et la terre, j'intercède pour le peuple de Dieu, et en fait, tout dépend de moi, quand je suis devant le Saint-Sacrement, enfin pas vraiment de moi, mais c'est moi qui suis la source de la grâce, Et grâce à moi, cette grâce, enfin grâce à moi, grâce à tous les priants, on ne peut pas exclure les priants, je sais que tous les gens qui sont malades et qui offrent leur souffrance sur leur lit d'hôpital, ils offrent une intercession immense, hein, on ne peut pas comparer, on ne sait pas, on verra au ciel. Mais pensez à la Vierge Marie au pied de la croix, qu'est-ce qu'elle a fait? Pas grand-chose, elle était là, mais elle offrait toute sa vie, elle offrait Jésus au Père. Et quand et Jésus a voulu associer la Vierge Marie à sa rédemption, on l'appelle la co-rédemptrice. Et l'égalité, c'est pas 50-50, c'est un peu chacun la moitié pour sauver le monde. Mais Jésus, il a tout fait, mais il a voulu associer sa mère qui était devant lui. Et quand vous êtes devant associé à sa rédemption, quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous êtes vraiment sur le Golgotha, au pied de la croix, Jésus qui sauve le monde. L'Eucharistie rend présent sur ce ciel-là. Donc vous êtes vraiment le disciple bien-aimé à côté de la Vierge Marie. Jésus associe, vous associe à sa passion pour que son salut se passe, communique, transmette dans le monde entier. Donc voilà, il faut faire les deux, mais ne faisons pas l'économie de l'adoration parce que c'est, voilà, le Seigneur nous appelle, puis c'est la grande tradition de l'Église depuis toujours, hein, je veux dire, voilà, donc c'est une dernière question, moi je suis resté plus longtemps, mais si vous devez y aller, n'hésitez pas, hein, je peux vous contenir. Oui, ben vous prenez la parole de Dieu, il faut. Prenez la parole de Dieu, il faut. Hein, on a besoin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, c'est la parole, la vie, c'est l'Eucharistie. Donc on a besoin des deux ensemble et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, c'est vraiment ensemble, sinon.
Est-ce qu'il
ne
suffit pas simplement de demander pardon à Dieu pour faire l'adoration?
Vous pouvez rester devant le tabernacle. Pour Jésus, c'est la même chose. Il vous voit pareil. Que ce soit la petite vitre de l'ostensoir, ou la petite porte en bois, ou en fer, lui, Jésus, c'est pareil. Mais pour nous, ça change tout. Beaucoup, en tout cas. Parce que prier une heure devant le tabernacle, ça se fait, mais c'est plus difficile. Alors, quand le Saint-Sacrement est bien exposé, qu'il y a des bougies, etc., que c'est très beau, solennel, tout de suite, votre foi est attirée, hein, et là, vous entrez dans cette dynamique de foi, parce que c'est vraiment la foi qui fait que je reçois la grâce. Et c'est vrai, et en même temps, on glorifie Dieu dans ce mode extraordinaire qu'il a inventé, qui est unique dans l'ordre de la nature, qui est le mode eucharistique où il est présent sous les apparences du peuple. On le glorifie en l'exposant, en le mettant en valeur et en le faisant. Et on est encore dans l'ordre de l'incarnation, il veut être vu, il veut être touché. Ça fait partie de l'autre, l'hostie veut être exposé, ça fait partie de la dynamique, j'ai envie de dire, de l'incarnation. Énormément de lieux où il y a des plages d'adoration, mais il y a à peu près 30 lieux, c'est vraiment 7 jours 7 nuits, continue, sans interruption, jour et nuit, 3 jours, 7 jours. Et à peu près, il y a à peu près 60 lieux où c'est la moitié de la semaine, 4 jours, 4 nuits, 3 jours, 3 nuits, les paroisses un peu moins importantes. C'est vrai qu'autour de Paris, les Yvelines, il y en a pas mal, mais en tout cas, la région lyonnaise, il y en a beaucoup, en Bretagne, quelques-unes. Après, ici, pas beaucoup encore, vous allez dire, hein, voilà, c'est cool, là, je suis sûr que la Vendée. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que dans le sud, on n'est pas très organisé, donc les remplacements, les trucs à Marseille, à Toulon, c'est un peu comme ça. Donc ne prenez pas exemple sur nous pour l'organisation, hein, mais. Dans le sud, oui, avec Bordeaux, Toulouse, Pau, tout ça, Bayonne. Comment ? À Nantes, par Emmanuel. Bon, on va dire à notre père. Si vous avez des questions, après je peux répondre à vos questions. Et alors,
à moins que tu veux dire un petit mot, tu veux.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Ceux qui ne seraient pas là ce week-end et qui souhaitent adorer, merci de nous donner vos noms. Parce que comme ça, on pourra nous inclure. Alors, il y aura la possibilité de le dire plus tard. Mais si jamais il y en a qui savent qu'ils ne sont pas sur ces deux paroisses, Notre-Dame et Saint-Louis, merci de. Ils veulent participer, vous pouvez nous donner votre nom, téléphone, et comme ça, on vous mettra tout de suite dans la grande chaîne d'adoration de prière. Merci.
Voilà, merci au Père Florian qui nous a aidés à découvrir, voire à redécouvrir l'adoration. Donc justement, il vient de dire ce que je voulais dire. Ceux qui ne seront pas là ce week-end pour s'inscrire aux messes peuvent mettre leur nom. Ce n'est pas réservé aux paroissiens. D'ailleurs, la semaine prochaine, le week-end prochain, sur la paroisse de la Chaise, il va y avoir le Père Christian Chérel qui va aller prêcher à différentes messes pour aussi inviter à s'inscrire à ce temps, à cette adoration qui se voudra perpétuelle. La dernière chose que je voulais dire, c'est que je retiens un conseil, mais je n'exclus pas les autres, loin de là. Ce que tu as dit au début de cette femme, celle-ci qui t'a aidé dans ta conversion vis-à-vis de l'Eucharistie, cette femme qui a interpellé des gens, qui s'était engagée un peu, je vous invite à le faire. Ça lui appartient à notre Seigneur. Moi, le résultat lui appartient, c'est pas la question, mais nous on doit tout faire pour que cette œuvre, si c'est de lui, si c'est pour lui, c'est pour lui, mais si c'est de lui, puisse se réaliser. Donc à nous de prendre nos responsabilités. Et donc si vous pouvez avoir ce réflexe d'en parler, de faire découvrir à travers aussi les livres, tout ça, voilà, n'hésitez pas et à s'inscrire. On pourra toujours s'inscrire de toute façon, parce qu'on étendra l'adoration au maximum. Voilà, donc il y a des bouquins qui sont à vendre, et puis aussi quelques fascicules. Voilà, merci. Bonne soirée. Oui, mais il s'éteint, mais c'est normal.
Oui, c'est bien.
Après, il s'éteint, il se met en veille, mais tu vois, ça marche toujours. Oui.